Quatrième partie. La passe sur Lumiérante. Chapitre 13. Vous vous appelez Henry Dorset Case. Elle récita l'année, le lieu de naissance, son numéro d'identification unifié de la MAB, puis une kyrielle de noms qu'il reconnut progressivement comme des pseudonymes surgis de son passé. Vous êtes ici depuis un bout de temps. Il vit le contenu de son sac répandu sur le lit, les vêtements sales triés par catégorie. Le shuriken était posé à part, entre les jeans et les sous-vêtements, sur la mousse teintée de sable. « Où est Kolodny ?» Les deux hommes étaient assis, l'un à côté de l'autre, sur le divan, bras croisés sur leur poitrine bronzée, chaîne d'or identique autour du cou. Case les regarda avec soin, et vit que leur jeunesse était une contrefaçon, visible à la présence de certaines rides fort révélatrices aux phalanges. Un détail que la chirurgie était incapable d'effacer. « Qui est Kolodny ?» C'était le nom inscrit à la réception. Où est-elle ?« C'est pas, » dit-il en se dirigeant vers le bar pour se servir un verre d'eau minérale. « Elle a décollé. »« Où êtes-vous allé cette nuit, Case ?» La fille saisit le pistolet et le posa sur sa cuisse, sans vraiment le braquer sur lui. « Jules Verne, les bars me défonçaient. Et vous ?» Il se sentait les genoux flageolants. L'eau minérale était chaude et fade. « Je ne crois pas que vous saisissiez bien votre situation, » dit l'homme sur la gauche, sortant un paquet de gitanes de la poche de poitrine de sa tunique de tulle blanc. « Vous êtes foutu, monsieur Case. Les charges pesant contre vous relèvent du complot visant à accroître une intelligence artificielle. » Il sortit de la même poche un denil en or qu'il nicha au creux de sa paume. « L'homme que vous appelez Armitage est déjà sous les verrous. Corto ?» Les yeux de l'homme s'agrandirent. « Oui. Comment se fait-il que vous sachiez son nom ?» Avec un cliquetis, un millimètre de flamme jaillit du briquet. « J'ai oublié, » dit Case. « Ça vous reviendra, » dit la fille. Leur nom, du moins leur nom de travail, était Michel, Roland et Pierre. Pierre, estima Case, était parti pour jouer le rôle du sale flic. Roland pour prendre le parti de Case. Lui procurer de petites gentillesses. Il trouva un paquet neuf de Ye Ouyan lorsque Case refusa une gitane. Et d'une manière générale, fournir un contrepoint à la froide hostilité de Pierre. Michel serait l'ange tutélaire chargé à l'occasion de rectifier l'orientation de l'interrogatoire. L'un ou l'autre, sinon les trois, il en était certain, était bidouillé pour la surveillance audio, très probablement pour le Simsteam, et tout ce qu'il allait désormais dire ou faire constituerait une preuve recevable. La preuve, se demanda-t-il dans les affres de la redescente, mais la preuve de quoi ? Le sachant incapable de suivre leur français, ils discutaient librement entre eux, ou du moins faisaient comme si. Ce qu'il saisit au vol lui suffit. Des noms comme Paulet, Armitage, Senso Rezo, panthères modernes qui ressortaient comme des icebergs au-dessus d'une mer agitée de français à l'accent parisien. Mais il demeurait parfaitement possible que ces mots fussent prononcés à sa seule intention. Il persistait à citer Molly sous le nom de Kolodny. « Vous dites qu'on vous a engagé pour faire une passe, Case, » dit avec lenteur Roland, sur ce qui se voulait un ton raisonnable, « et que vous ignorez la nature de la cible. N'est-ce pas inhabituel dans votre branche ? Une fois que vous auriez pénétré les défenses, cela ne vous rendrait-il pas incapable alors d'accomplir la mission requise ? Et sans doute, exige-t-on de vous l'exécution d'un certain type de mission, n'est-ce pas ? Il se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux bronzés, patchwork, les paumes ouvertes pour recevoir l'explication de Case. Pierre arpentait la pièce. Tantôt il était à proximité de la fenêtre, tantôt près de la porte. « C'était Michel, le mouchard, » décida Case. Elle ne le quittait jamais des yeux. « Est-ce que je peux me rhabiller ? » demanda-t-il. Pierre avait insisté pour le dévêtir, fouillant jusqu'aux coutures de ses jeans. À présent, il était assis, tout nu, sur un tabouret d'osier, avec ce pied d'un blanc obscène. Roland posa à Pierre une question en français. Pierre, de nouveau à la fenêtre, regardait à l'aide d'une petite paire de jumelles compactes. « Non, » répondit-il d'une voix absente. Et Roland haussa les épaules, levant les sourcils en direction de Caise. Caise estima le moment bien choisi pour un sourire. Roland le lui rendit. « Le plan le plus éculé du manuel du parfait flic, » songea Caise. « Écoutez, » dit-il, « je suis malade. J'ai pris cette saloperie de drogue dans un bar, vous comprenez ? J'ai envie de me coucher. Vous me tenez déjà. Vous me dites que vous avez chopé Armitage. Vous l'avez ? Posez-lui la question, à lui. Moi, dans tout ça, je ne suis jamais qu'un employé temporaire. » Roland hocha la tête. « Et Colodny ? Elle était déjà avec Armitage quand il m'a engagé. Rien que du muscle, une fille rasoir, autant que je sache, ce qui n'est pas grand-chose. Vous savez que le nom véritable d'Armitage est Corto, » observa Pierre, les yeux toujours dissimulés par les bourrelets de plastique souple de ses jumelles. « Comment savez-vous cela, mon ami ?»« Je suppose qu'il a dû le mentionner à un moment, » dit Caise, en regrettant son lapsus. « Tout le monde possède un ou deux noms. C'est Pierre, le vôtre ?»« Nous savons comment ils vous ont réparé à Chiba, » dit Michel, « et que cela pourrait bien avoir constitué la première erreur de mai d'hiver. » Caise la fixa de l'air le plus neutre possible. Le nom n'avait pas encore été mentionné jusqu'ici. La procédure employée sur vous a exigé du propriétaire de la clinique l'application de 6 brevets de base. Savez-vous ce que cela signifie ? Non. Cela signifie que l'opérateur d'une clinique au noir de Chiba possède désormais une majorité de blocage au sein de 3 groupes majeurs de recherche médicale. Ceci renverse l'ordre normal des choses, voyez-vous. De quoi attirer l'attention. Elle croisa ses bras bronzés sur ses petits seins hauts et se radossa contre le coussin imprimé. Caise se demanda quel âge elle pouvait avoir. On disait que les yeux trahissaient toujours l'âge des gens, mais il n'avait jamais été capable de le voir. Julie Dean avait eu les yeux d'un gamin de 10 ans désintéressé derrière le quartz rose de ses lunettes. Rien de vieux chez Michel, mis à part ses phalanges. On a remonté votre piste jusqu'à la Connerbe. On vous a reperdu, puis rattrapé, au moment où vous vous apprêtiez à partir pour Istanbul. En remontant en arrière, on vous a repéré à travers la grille, persuadé que vous étiez à l'origine des troubles à Sensorezzo. Cette dernière firme ne demandait qu'à coopérer. Ils ont lancé pour notre compte un inventaire. C'est ainsi qu'ils ont découvert la disparition de la reconstitution sur mémoire morte de la personnalité de ce McCoy Paulet. À Istanbul, intervint Roland, presque sur un ton d'excuse, ce fut très facile. La femme avait mouillé le contact d'Armitage avec la police secrète. Et voilà que vous vous pointez, enchaîna Pierre en glissant les jumelles dans la poche de son short. Nous étions ravis. Tout s'éclaircissait. Mauvais pour votre bronzage, non ? Vous savez très bien ce que nous voulons dire, dit Michel. Libre à vous de faire comme si ce n'était pas le cas, mais vous ne faites que rendre votre situation plus difficile. Il reste toujours de quoi vous extrader. Vous reviendrez avec nous, Caise, tout comme Armitage. Mais seulement, où au juste allons-nous tous nous rendre ? En Suisse, où vous ne serez jamais qu'un simple pion dans le procès d'une intelligence artificielle ? Ou dans la MAB, où vous pourrez être convaincu d'avoir participé non seulement à une invasion de fichiers et un vol de données, mais à un acte public de malveillance qui a coûté la vie à 14 innocents ? Le choix est entre vos mains. Caise sortit une Ye Wan de son paquet que Pierre lui alluma avec le denil en or. Armitage, vous protégerait-il ? La question fut ponctuée par le claquement sec des mâchoires du briquet qui se refermait. Caise leva les yeux pour le dévisager à travers la douleur et l'amertume induite par la bêta-phénéthylamine. Quel âge avez-vous, chef ?
Je suis assez vieux pour savoir que vous êtes foutu, brûlé, que la farce est terminée et que vous êtes sur la pente de sortie.
Un simple détail, dit Caise, et il tira sur sa cigarette. Il souffla la fumée au nez de l'agent du registre de Turing.
Les mecs, est-ce que vous avez réellement la moindre juridiction dans le coin ?
Je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû inviter également l'équipe de sécurité de zone libre ? C'est quand même leur secteur, non ?
Il vit se durcir le regard des yeux sombres sur le visage lisse du garçon et se tendit en prévision du coup. Mais Pierre se contenta de hausser les épaules.
« Ça n'a pas d'importance, dit Roland. Vous allez nous suivre. Les situations d'ambiguïté, ça nous connaît. Les traités, au terme desquels notre section du registre opère, nous laissent une grande marge de manœuvre, et nous savons la créer nous-mêmes lorsque la situation l'exige. »
Tombé soudain le masque d'amabilité, les yeux de Roland étaient devenus aussi durs que ceux de Pierre.
« Vous êtes pire qu'un idiot, dit Michel en se levant pistolet en main. Vous n'avez aucun respect pour votre espèce. Pendant des milliers d'années, les hommes ont rêvé de pactes avec les démons. Seulement, maintenant, de telles choses sont possibles. Et avec quoi deviez-vous être payé ? Quel devait être votre prix pour aider cette chose à se libérer et grandir ? »
Il y avait dans sa voix une lassitude entendue qu'aucune adolescente de 19 ans n'aurait pu maîtriser.
« Vous allez vous habiller maintenant, vous allez nous suivre. De même que celui que vous appelez Armitage. Vous allez revenir avec nous à Genève pour témoigner au procès de cette intelligence. Autrement, nous vous tuons, tout de suite. »
Elle éleva son pistolet, un Walther, lissé noir, muni d'un silencieux intégral.
« Je m'habille déjà, » dit-il en titubant vers le lit.
Il avait encore les jambes en coton, maladroites. Il prit en tâtonnant un t-shirt propre.
« Nous avons un vaisseau prêt à décoller. Nous effacerons le construct de Paulet avec une arme à impulsion. »«
Sympa pour Senso Réseau, » fit Kez, en songeant, et, pour toute l'épreuve, rentrer dans le Osaka. « Ils ont déjà quelques petits problèmes pour avoir possédé un tel objet. »
Kez tira le maillot par-dessus sa tête. Il vit le shuriken sur le lit, métal inerte, son étoile. Il goûta sa colère. Disparu. Temps de céder, de se laisser embarquer. Il songea au sachet de toxines et marmonna. V'là la viande qui reprend le dessus.
Dans l'ascenseur, montant vers la prairie, il pensa à Molly. Il se pouvait qu'elle soit déjà entrée à Lumiérante, aux trousses de Riviera, pourchassée sans doute par Idéo, qui était presque certainement le clone du ninja évoqué par le Finnois. Celui qui était venu récupérer la tête parlante. Il posa le front sur le plastique noir mat de la tenture murale et ferma les yeux. Ses membres étaient de bois, vieux, noueux et gorgés de pluie. On était en train de servir le déjeuner à l'ombre des arbres, sous les parasols écarlates. Roland et Michel retrouvèrent leur rôle de composition, devisant gaiement en français. Pierre venait derrière. Michel lui maintenait le canon de son pistolet collé contre les côtes, dissimulant l'arme sous une veste de toile blanche, négligemment posée sur le bras. Tout en traversant la prairie, sinuant entre les tables et les arbres, il se demanda si elle le descendrait s'il se laissait tomber là tout de suite. Quelque chose comme de la fourrure noire bouillonnait à la lisière de sa vision. Il leva les yeux vers la bande de blanc torride de l'armature du Lado à Caissonne, et vit un papillon géant s'incliner avec grâce sur le fond de ciel préenregistré. Parvenus au bout de la piste, ils longèrent la rambarde bordant la falaise, garnie de fleurs sauvages, qui dansaient dans le courant ascendant venu du canyon de Desiderata. Michel fit voltiger ses courts cheveux bruns et pointa le doigt en confiant à Roland quelque chose en français. Elle semblait franchement heureuse. Kez suivit la direction de son geste et vit la courbure des lacs de glisse, l'éclat immaculé des casinos, les rectangles turquoises d'un millier de piscines, les corps des baigneurs, minuscules hiéroglyphes de bronze, tous plaqués dans une sereine approximation de pesanteur contre la courbure infinie de la coque intérieure de zone libre. Ils suivirent la rambarde jusqu'à un pont de fer forgé, ornementé, qui lançait son arche au-dessus de Desiderata. Michel l'aiguillonna du canon de son Walther.
« Du calme. C'est tout juste si je peux marcher aujourd'hui. »
Ils avaient parcouru un peu plus du quart de la traversée lorsque le micro léger frappa, inaudible avec son moteur électrique, jusqu'au moment où l'hélice propulsive en fibre de carbone vint décaloter le sommet du crâne de pierre. Un bref instant, ils furent dans l'ombre d'un appareil. Kez sentit le sang chaud lui arroser la nuque, puis quelqu'un le fit trébucher. Il roula, apercevant Michel sur le dos, genoux levés, braquant le Walter à deux mains. « Peine perdue, songea-t-il, avec cette étrange lucidité que procure le choc. Elle essayait de descendre le micro léger. La seconde d'après, il courait. Il se retourna en dépassant le premier des arbres. Roland courait à ses trousses. Il vit le fragile biplan heurter la rambarde de fer du pont, s'effondrer, se retourner, balayant avec lui la fille dans sa chute vers Desiderata. Roland ne s'était pas retourné. Regard fixe, visage livide, il montrait les dents. Il avait quelque chose dans la main. Le robot jardinier chopa Roland au moment où celui-ci passait sous le même arbre. Il tomba droit des branches émondées, créature semblable à un crabe, peinte de rayures noires et jaunes. « Tu les as tués ?» halta Kez, toujours courant. « Dingue d'enculé ! Tu les as tous tués !»